Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 20 mars. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Donc l'équipe au complet pour un sommaire encore une fois fourni. On va parler de films qui sortent aujourd'hui et puis de films qui sont déjà sortis et puis dans des genres alors là complètement différents, hein, n'est-ce pas Marine?
Oui, moi je vais vous parler de Claude Atlas, des frères et sœurs Wachowski et de Sugarman, très brièvement Oscar du meilleur documentaire cette année.
Et puis un autre film américain avec toi Manu.
Le monde fantastique d'Oz de Sam Raimi, un cinéaste d'ailleurs issu on va dire du bis quelque part, puisqu'il a été le réalisateur d'Evil Dead, donc un grand écart entre Evil Dead et une production Disney.
C'est clair. Et puis on écoutera une interview, celle de Jérôme Palto et de Xavier Mathieu pour La saga des Conti, un documentaire qui sort aujourd'hui. Et en toute fin d'émission, on fera une petite interview aussi de Antoine Leclerc, qui est le délégué général du festival Itinérance d'Alès, qui débute ce 22 mars. C'est Cinérama.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Considéré comme le premier blockbuster indé, Claude Atlas sort surtout dans nos salles précédées d'une étiquette de film inexploitable après avoir fait un four outre-Atlantique. Blockbuster indépendant, il l'est très certainement, car les réalisateurs l'ont financé de manière disparate en allant chercher des fonds dans le monde entier, ce qui fait de lui un film de nationalité multiple. Quant à son côté inexploitable, il le tient sans doute de son aspect inclassable, puisqu'il semble être constitué de différents genres habituellement impossibles à faire cohabiter. Composé de 6 personnages, de 6 époques et de 6 atmosphères radicalement différentes, Claude Atlas tisse une toile d'araignée vertigineuse sur plusieurs milliers d'années, reliant entre eux des personnages qui, bien que séparés par les époques, s'avèrent semblables dans leur destin ou leurs sentiments. Un schéma d'ailleurs qu'on avait déjà rencontré dans The Fountain de Aronofsky, mais qui lui avait par contre fait beaucoup moins parler. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
Qu'est-ce que vous faites là ? Sans que je sache pourquoi, quand j'ai ouvert cette porte et que je vous ai vu, une puissante impression de déjà-vu m'a transpercé jusqu'aux os.
C'est ça, la musique que j'ai entendue en rêve.
Je viens de la rencontrer, et pourtant, je suis tombé amoureux de Louisa Ray.
Notre vie n'est pas la nôtre. Nous sommes liés aux autres, dans le passé, le présent et l'avenir.
Le concept est poussé si loin que ce scénario polymorphe est lui-même tourné par 3 réalisateurs. Andy et Lana Wachowski se sont ainsi offerts les secours de Tom Twicker, le réalisateur de Cour, Lola Cour et du Parfum. Si le tournage s'est avéré titanesque de bout en bout, le film est à contrario d'une limpidité incroyable. La première demi-heure laisse croire à une certaine opacité de l'intrigue, mais par la magie d'une mise en scène virtuose et de la virtuosité, il en faut avec un tel matériau. Tout s'éclaire progressivement jusqu'à devenir parfaitement limpide lors des dernières scènes, lors d'une découverte de la vérité parfaitement orchestrée afin que le spectateur la comprenne au même moment que les personnages. Ces personnages nous fournissent d'ailleurs un vrai plaisir de cinéma ainsi qu'une impressionnante performance puisque chaque acteur interprète 6 individus totalement différents. Un exercice bien réalisé, notamment par Tom Hanks ou Hugo Weaving, qui était, rappelons-le, le célèbre méchant de Matrix. Le tout créant un jeu avec le spectateur qui cherche à reconnaître ainsi les différents comédiens sous leur déguisement. Alors gageons que les effets spéciaux glaneront quelques prix mérités, car les maquillages sont quand même assez sidérants, hormis un seul qui est raté, je pense que tu vas comprendre duquel je parle, Vincent. Parce que c'est vrai que le fait de transformer une Coréenne en petite rouquine, c'était une entreprise un peu périlleuse. Et alors là, ça a été complètement foiré. Le montage qui accompagne cette odyssée est suffisamment fluide pour nous porter sans nous perdre, créant une symphonie de vie à l'image de la symphonie musicale intitulée Claude Atlas, composée justement par l'un des personnages. Même si le film semble assez fier de ses propres prouesses, et le peut car il élève l'exercice du raccord parfait au rang d'art, cet objet filmique unique contourne les écueils de la prétention en évitant de se regarder trop filmé. Il sait ménager ses prouesses visuelles pour laisser parler l'émotion et parvient à trouver son équilibre, chaque segment étant ainsi réalisé dans son propre genre. Alors si on connaissait ce trio de réalisateurs pour leur aptitude dans le domaine de la science-fiction ou de l'action, on les découvre également doués pour la romance et la comédie, bien que le film tout entier repose sur la notion de karma, le discours New Age de Claude Atlas ne s'avère pas trop indigeste, même s'il ne tourne que autour des notions de vie après la mort, de recherche de la liberté et d'amour éternel. Au contraire, en fuyant une facile pluri-happy end, Claude Atlas donne du poids à sa théorie de la réincarnation et ça nous donnerait presque envie d'y croire au bout de 3 heures d'hypnose cinématographique. Et alors justement, concernant la théorie selon laquelle dans le film tout est lié, je ne sais pas si vous savez comment les frères Wachowski ont eu justement l'idée de Claude Atlas. En fait, c'est Nathalie Portman sur le tournage de V pour Vendetta qui leur a donné un exemplaire du best-seller du livre, enfin du best-seller pardon, de David Mitchell. Et c'est ainsi qu'ils ont eu l'idée d'adapter ce livre. Voilà, tout est lié. C'est incroyable. C'est oui. QFD.
Comme dans du Lelouch, en fait.
Mmh. Oula.
La belle histoire, c'est pas ça, un peu?
Je ne me souviens plus.
Oui, on va dire que c'est une sorte de film choral, mais alors vraiment hyper américanisé, avec juste 100 millions de dollars de budget.
C'est dur, la transition entre Lelouch et les frères et sœurs Wachowski.
Bon, en tout cas, moi, je le conseille, même si c'est vrai que ce n'est pas un film facile, si on se laisse porter... Eh ben, on est totalement dedans, on est totalement immergé et on en ressort assez retourné, je dois dire. C'est un film vraiment unique.
Alors tu parles de blockbuster indé, alors en même temps c'est vrai que ça reste un blockbuster, c'est quand même la Warner hein, qui est derrière tout ça, c'est les frères Wachowski donc, qui ont fait Matrix, mais c'est à peu près leur seul succès parce que Speed Racer qu'ils ont fait auparavant n'avait pas tant fonctionné que ça, me semble-t-il.
Non,
alors
ça a été un énorme navet. Enfin,
ce n'était pas un navet, ne dis pas ça devant nous.
Un gros ratage, je veux dire.
C'était un ratage public, voilà. mais c'était leur super divertissement coloré. Et donc, ils continuent à être soutenus quand même par les studios et ils ont finalement le droit de faire un peu ce qu'ils veulent.
Ils continuent aussi à prendre des drogues assez incroyables qui va permettre de pondre des scénarios auxquels personne d'autre n'aurait pensé. Parce que quand même, depuis Matrix, c'est les seuls auteurs qui arrivent à oser écrire des choses pareilles, quoi. Mais, et à le faire bien aussi.
Voilà, mais là, c'est une adaptation et elle n'était pas facile, effectivement, puisque ça, tu le dis, ça mélange 6 époques.
Et 6 genres.
Et 6 genres
différents.
Parce que
passer de la science-fiction à la comédie, sachant que même le segment comique est plutôt bien fait, quoi. Il est vraiment
très, très
drôle.
Bien fait.
Donc c'est...
Il est même très très ironique. Alors après, ça doit se retrouver aussi dans le roman, hein, mais il est question du soleil vert. Et
oui.
Puis après, dans le futur, on retrouve quelque chose, mais cette fois-ci au niveau dramaturgique. Enfin voilà. Mais sinon, après, il y a une morale protestante quand même qui est très très prenante dans ce film. Enfin moi, me semble-t-il. Hein, après, il y a une distinction entre le discours et puis l'émotion. Tu parlais de l'émotion. Effectivement, on peut se laisser aller complètement à une certaine émotion puisqu'on traverse les âges. Ces personnages qu'on retrouve en tant que sosie à chaque fois, enfin, changent, mine de rien, s'améliorent. Enfin bon, voilà, on peut se laisser porter par cette histoire. Mais en même temps, il y a un discours qui est très très prenant et qui est un peu comme celui de Matrix, hein, finalement, hein, une espèce de métaphysique New Age, où là, on peut être un peu perdu. Alors moi, j'aimerais bien le revoir, parce que j'ai vraiment adoré. J'aimerais bien le revoir en VF, justement, pour me concentrer sur les images et puis être vraiment dans ce délire audiovisuel où on a simplement le discours dans sa langue. Et puis, mais alors il paraît que la VF, en revanche, est complètement ratée.
Comme on pouvait entendre dans la bande-annonce, d'ailleurs.
Parce qu'il y a une très belle invention, comme on traverse les âges, alors c'est de pire en pire jusqu'à une époque post-apocalyptique, où on a perdu l'usage de la syntaxe, de la syntaxe et puis voilà, des mots tels qu'on...
Mais c'est pas d'ailleurs la seule langue qui soit inventée, puisque dans la partie qui se passe à Néo-Séoul, dans 1 ou 2 siècles par rapport à maintenant, il parle
le
consommateur.
Oui.
Alors c'est une langue assez soutenue qui ressemblerait à du français soutenu avec des mots extrêmement
Des mots
extraits du jargon
aussi.
Publicitaire.
Oui, voilà, mais des mots techniques et là c'est un peu la vision orwellienne, enfin hein, du futur. Et donc dans cette vision post-apocalyptique, il y a une langue qui est inventée et qui a donné un énorme boulot, je pense, aux traducteurs, qui moi me semblait totalement réussi.
C'est du jacouille en fait, c'est juste
oui,
ça.
Oui, toi tu parles.
C'est du jacouille. Il parle comme jacouille dans Les Visiteurs.
Ou dans Orange Mécanique, un peu.
Ouais, mais beaucoup plus poussé, parce que là, voilà. Enfin, moi, je trouve ça très réussi. Et heureusement, je n'ai pas pensé à Jacouille. Mais il paraît que, en tout cas, en version française, ça devient une espèce de, d'accent québécois. Et voilà, c'est peut-être là où c'est raté. En tout cas, à découvrir, que ce soit en VO, donc au Diagonal.
Enfin,
et puis,
plutôt en
VF,
VO. Et pensez à passer aux toilettes avant. C'est mon conseil
ça
de la journée.
Ça dure 2h50. Et oui. Dans une première version, je crois que c'était au-delà de 3h.
Il faut mieux pas partir pendant 5 minutes, parce que sinon, on risque d'être un peu perdu.
Mais je crois que le film a été un four aux États-Unis.
Hein. Oui, complètement. Oui. Voilà, oui. Ça,
quand
ça a pas
quand
du
on parlait de succès tout à l'heure, ça n'a pas marché du tout.
Non, ça n'a pas marché du tout. Non, mais je parlais des succès. Le seul succès d'ailleurs qu'ils ont eu, c'est sans doute Matrix. Voilà. Mais malgré tout, ils ont pu continuer à faire du cinéma comme ils l'entendent. Ce cinéma, ça continue.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Et c'est un tout autre genre, puisque nous passons au genre documentaire cette fois-ci. C'était le 11 mars 2009, les 1120 salariés de l'usine de pneumatique continentale de Clairoy dans l'Oise reçoivent leur lettre de licenciement et très vite, ceux que l'on va appeler les Contis vont entrer en lutte. Jérôme Paltot a filmé les Contis dès le début du mouvement et sort aujourd'hui la saga des Contis. Alors dans ce documentaire, on voit la lutte parfois radicale, l'absence de soutien des confédérations syndicales et puis aussi les premières luttes européennes, puisqu'il y a une entente entre les salariés français et les salariés allemands qui eux aussi se font lourder. Alors ce qui distingue les Contis d'autres salariés d'entreprises fermées ou délocalisées, c'est qu'ils n'ont jamais rien lâché avant d'avoir obtenu ce qu'ils demandaient. Nous avons rencontré Jérôme Paltot, le réalisateur de la saga des Contis, et puis Xavier Mathieu, le porte-parole des Contis qu'on a largement entendu pendant le conflit. Je pense que sa voix ne vous sera pas étrangère.
L'usine est implantée ici depuis 75 ans. Ça fait partie du patrimoine de la région.
J'étais contente d'aller travailler à Continental.
J'adorais mon boulot.
C'était comme une énorme boîte avec des bons salaires.
11 mars 2009.
Le fabricant de pneus Continental vient d'annoncer la fermeture de Clairoy dans l'Oise. Les 1120 salariés de ce site, revenus aux 40 heures contre la promesse du maintien de leur emploi jusqu'en 2012, étaient devenus le symbole du travailler plus pour gagner plus.
J'habite le village où se trouve l'usine. Le matin du 11 mars 2009, j'ai découvert un peu en même temps que les médias, d'ailleurs par les médias, mais j'étais physiquement sur place et j'apprenais par les médias dans la voiture que l'usine fermait. Et j'ai vu tous les ouvriers assemblés devant et ça a été un déclic et l'après-midi même je suis allé chercher une caméra et j'ai commencé à tourner.
La fureur des salariés de Continental. Ils viennent d'apprendre qu'ils sont déboutés de toutes leurs demandes. En quelques minutes, ils dévastent les bureaux, renversent les ordinateurs, une véritable mise à sac de la sous-préfecture de Compiègne.
Une personne de la Confédé qui me répond que la radicalisation, c'est pas dans les méthodes de la CGT et nous soutenir, ce serait cautionner ce qui s'est passé. Et quand le mec de France Info m'appelle 3 semaines après et qui me dit tiens, qu'est-ce que vous allez faire bientôt, la CGT, la Confédé va vous proposer un poste, je lui ai expliqué que ça se passerait pas tellement comme ça, quoi. Donc voilà, j'ai l'interview sur Thibault et je dis que Thibault, pendant cette période-là, en 6 mois, était 8 fois à l'Élysée. Je pense que s'il avait voulu sauver la tête, si franchement Thibault avait voulu sauver la tête des 7, il l'aurait fait. Si vraiment il avait été voir Sarkozy en lui disant maintenant vous lâchez les mecs parce que ça va être le bordel, il l'aurait fait. Et je pense qu'il n'y en a aucun des 7 qui aurait été poursuivi.
C'est plus les syndicats qui ont décidé, c'est les gens.
Les confédérations aujourd'hui, c'est de la bureaucratie pure et simple.
Entre Thibault et moi, il n'y a rien. Il ne sait même pas que j'existe.
On laissera personne manœuvrer pour nous empêcher d'essayer d'aller au bout.
Bon, ce film porte en lui, je pense, plein de thèmes, plein de réflexions. Le public se l'approprie de façon très diverse, parce que des gens qui, des fois, m'en parlent, soulèvent des problématiques que j'avais, juste effleurées, mais je ne pensais pas qu'elles étaient aussi prégnantes ou évidentes. Donc je pense que le public va se l'approprier. Et quelles que soient, d'ailleurs, ses opinions politiques, je pense que tout le public peut se l'approprier, parce que je ne l'ai pas conçu comme un film militant, mais vraiment comme un film citoyen. Est-ce que... à travers la forme que j'ai prise pour raconter cette histoire, qui est une forme effectivement assez spectaculaire ou un petit peu fictionnelle, moi, ce que j'ai surtout voulu dire, c'est que ce combat, il était juste. Voilà. Et c'est l'idée principale que j'ai envie de faire passer à travers ce film. Il était juste et il était aussi très intelligent. Parce qu'il ne faut pas prendre les ouvriers pour des imbéciles. Hein. Quand on fait, il faut savoir qu'il faut autant d'intelligence pour faire un travail manuel que pour faire un travail intellectuel, entre guillemets. Et lorsque cette intelligence manuelle, finalement, elle est sollicitée d'une manière différente, elle peut très bien se dérouiller, hein. Les neurones se dérouillent très vite et elle se transforme en intelligence tactique, émotionnelle. Et elle fait des étincelles.
D'ailleurs, il y a un immense hors-champ. Hein. Le hors-champ, ça pourrait être les patrons, ça pourrait être le pouvoir politique qu'on voit, mais très peu. Puis il y a ces fameuses 26 heures là, de négociations qui sont ramenées à 5 minutes, peut-être, à peine. Enfin, voilà. C'était nécessaire de rester tout le temps du même côté, même si vous dites que ce n'est pas militant, c'est citoyen.
Oui, alors évidemment, il y a forcément un parti pris. Moi, je ne fais pas du reportage d'investigation, je fais du documentaire. Donc le film, c'est mon regard aussi de cette histoire.
Voilà, donc ça c'était Jérôme Palteau, le réalisateur des Conti, de la saga des Conti. Et puis il y avait Xavier Mathieu, donc on a entendu ce syndicaliste qui a été connu parce que voilà, il a eu un petit clash, comme on dit, avec le présentateur de France 2, Monsieur Pujadas. Et il est devenu acteur par la suite et il est toujours acteur. Alors moi, ça m'intéressait de connaître un peu son point de vue sur le monde du cinéma. On écoute.
Il y a le metteur en scène qui me fait des scènes et j'en ai bien marre. Ta tête cafard, je suis rien qu'un objet, un pion du ciné. La lumière dans la figure, c'est dur, c'est dur.
Mais jamais, au grand jamais, rêvé de faire ce métier-là. Moi, d'ailleurs, quand Clapiche m'appelle, qui se présente, je lui dis que je sais pas qui c'est. Il me dit qu'il a fait des poupées russes, auberge espagnole et tout ça. Je lui dis, je vais jamais au cinéma, je sais pas de quoi tu parles. Et ça l'a même fait hyper rire et surtout, il racontait ça à tout le monde que je connaissais pas. Moi, au bout de 4 ans, le seul endroit où on m'est proposé du travail, c'est dans ce métier, dans ce milieu le plus précaire, le plus difficile d'entrer et aussi le plus népotique qui existe. C'est un milieu qui marche par réseau, par connaissance. Il faut beaucoup compter sur les autres, même si c'est pas vraiment dans ma façon de vivre. J'aime bien être un peu dépendant de ma vie et gérer ma vie. Et c'est quand même un métier où si on n'a pas aidé, si on n'a pas d'aide extérieure, si on n'est pas... on est quand même contraint en permanence d'être l'envie de quelqu'un, le besoin de quelqu'un, le désir de quelqu'un. Alors c'est bien quand c'est une femme, mais quand c'est un métier, c'est un peu différent. Et voilà, non, mais c'est un métier qui est magnifique, qui vous laisse aussi beaucoup de temps, mais il faut quand même ramer pour l'arriver, parce que 43 cachets, on s'imagine, on a entendu une certaine époque Chéreg dire que les intermittents du spectacle, c'était des privilégiés, et ben qu'ils le fassent. Quand je suis rentré dans le métier la première fois, que j'ai tourné avec Clapiche, j'entendais les gens, les comédiens parler entre eux, mais je parle des petits comédiens, je parle pas des gros, des bankable. Je parle des petits comédiens qui parlaient entre eux, j'ai l'impression qu'ils parlaient de drogue, quoi. T'as tes cachets, il te manque combien, moi il me faut ça. Non mais c'était un truc de malade, je me suis dit mais où est-ce que je suis. Et en fait, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que moi quand j'ai eu Clapiche au téléphone, qui m'avait dit moi j'ai envie de te faire tourner, j'ai dit 3 fois non, 3 fois il m'a appelé, j'ai dit, mais il me dit pourquoi, j'ai dit parce que pour moi ton milieu, les paillettes, le showbiz, tout ça, ça m'intéresse pas. Et il m'a dit un jour, écoute Xavier, ce métier, ce milieu existe dans mon métier, mais il me dit moi le premier je le fréquente pas, et il y a des gens très bien dans ce milieu. Et en fait c'est vrai, je me suis rendu compte que fabriquer un film, c'est comme pour fabriquer un pneu. T'as plein de petites gens, plein de petites mains, des cadreurs, des maquilleurs, des électros, des machinaux, des régisseurs, des tas de petites mains qui font des grands films et qui font qu'il y ait des stars, des fois qui s'exporte à l'étranger pour pas payer d'impôts.
Comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, tu te fais du bien et tu te plains.
Vous, Xavier Mathieu, là, si on vous entend bien, hein, vous allez continuer finalement à tourner dans des films de fiction. Hein.
Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je ferai autre chose. Bon, pour l'instant, ça me fait pas vivre. Pour l'instant, c'est mon salaire de Pôle emploi qui me fait vivre. C'est pas le cinéma. Mais voilà, si moi j'arrive à faire ce métier, si j'arrive à faire ce métier en gagnant 1 500 euros par mois jusqu'à la fin de ma vie, je serais heureux.
Comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, tu te fais du bien et tu te blâmes.
Voilà, c'était intéressant de confronter Xavier Mathieu des Conti avec la chanson de Gérard Depardieu. Voilà.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
On passe à un autre blockbuster, donc moins ambitieux que Cloud Atlas, puisqu'il s'agit d'une production Disney, Le Monde Fantastique d'Oz. Donc le budget pharaonique de 215 millions de dollars pour cette production donc Disney ne parvient pas à étouffer le talent de Sam Raimi, qui n'a pas encore complètement vendu son âme au gros studio. Préquel du Magicien d'Oz, ouvrage d'ailleurs très célèbre aux États-Unis et adapté une première fois en 1939 par Victor Fleming, avec d'ailleurs Judy Garland dans le rôle de Dorothy, Le Monde Fantastique d'Oz est une habile variation du film de Fleming et, il faut bien le reconnaître, un enchantement visuel boosté par une 3D, une fois n'est pas coutume, fort bien intégrée à l'univers féerique.
Vous parlez sérieusement ?
Ça ne devrait pas être compliqué de tuer une méchante sorcière.
Mais si ! C'est très compliqué ! C'est très très compliqué de tuer une méchante sorcière ! Et vous avez pensé à cette pauvre jeune fille ? Je pense qu'elle vous aime vraiment.
Elle finira par m'oublier, comme toutes les autres. C'est une belle sorcière. Plein de beaux sorciers viendront frapper à sa porte.
Oh, chacun de vos mensonges est un pas de plus vers le donjon de la cité d'Émeraude.
Ne te dis pas que ce sont des mensonges. Dis-toi plutôt que ce sont les pavés de la route qui mènent à la grandeur.
Attendez, je sais, on va faire demi-tour. Vous vous excuserez d'avoir menti en prétendant être le magicien et de vous être moqué de cette fille. Vous devrez prendre un air affecté pour être crédible. Il faudra essayer de pleurer. Vous savez pleurer ? Sinon, j'éplucherai un oignon.
Nous ne ferons pas demi-tour. Nous trouverons la méchante sorcière, nous lui volerons sa baguette magique, je recevrai une montagne de pièces d'or et toi, tu recevras une montagne de bananes. Voilà.
Des bananes ? Non, je vois. Parce que je suis un singe, j'aime forcément les bananes, n'est-ce pas ? Encore un de ces vieux stéréotypes.
Tu n'aimes pas les bananes ?
Si, j'adore les bananes. Forcément, je suis un singe. Mais ce que je déteste, c'est votre façon de dire.
Bon, vous avez compris un peu le ton du film, assez léger, on va dire. Hein. Mais le film s'ouvre d'ailleurs par un joli prologue en noir et blanc et en format 1.33. Cinéaste, cinéphile attentif et, je dirais, artisan modeste venu du film d'horreur, notamment Evil Dead tout de même, Sam Raimi commence par rendre un hommage assez émouvant aux Freaks de Todd Browning. Le film raconte donc le parcours de Oz, prestidigitateur charlatan, un illusionniste un peu fourbe, qui s'adonne à des spectacles de magie évidemment truqués. Par un étrange phénomène naturel, une sorte d'ouragan, il se retrouve plongé dans un univers enchanteresse, coloré et chatoyant, et d'un coup en scope et en couleur, appelé Oz. Attendu comme le Messie, Oz est bien sûr le magicien qui doit sauver la planète de la méchante sorcière. Vous l'avez compris en écoutant l'extrait. Donc, Oz va rencontrer Théodora, une sorcière ingénue qui le conduit au château. Il fait la connaissance de sa sœur, l'ambiguë, mais pour pas longtemps, Eva Nora. S'il parvient à détruire la méchante sorcière, il accédera au trône et possédera le trésor du château. Aidé d'une poupée en porcelaine et d'un singe fidèle, mangeur de bananes, comme vous l'avez compris aussi, Oz, en parfait usurpateur, décide quand même par cupidité d'honorer sa mission. Mais les apparences sont trompeuses et le mal n'est pas forcément là où on l'attend. Bref, pas besoin d'avoir plus de 10 ans pour deviner qui est la vraie vilaine dans l'histoire. Bon, d'un point de vue narratif, le monde fantastique d'Oz est vraiment du Disney calibré, propre sur lui et sans surprise. Les méchants sont punis mais ne meurent pas. Le filou Oz découvre l'amour et la bonté qui, bien sûr, ont toujours été présents en lui. Et le bien triomphe du mal. Bienvenue dans le monde merveilleux de Walt Disney. On a même droit à un feu d'artifice à la fin qui ressemble quand même à un spectacle son et lumière de parc d'attractions. De ce cahier des charges quand même indigeste, traversé d'un humour souvent pâteau, Sam Raimi tente malgré tout d'injecter ici et là sa petite touche personnelle, notamment dans le traitement de la sorcière Théodora, qui est d'ailleurs incarnée par la délicieuse Mila Kunis, qui évoque ces personnages maléfiques de comics pour qui on éprouve de l'empathie, tel le Bouffon Vert ou Octavius, personnage de Spider-Man évidemment. Rémi évite aussi la surenchère de sucrerie, l'écœurement provoqué par ses décors grandioses et bariolés, ses multiples personnages plus mignons les uns que les autres, grâce tout de même à une mise en scène alerte aux accents burtoniens. D'ailleurs, la première rencontre avec la vilaine sorcière dans le cimetière brumeux est un grand moment de cinéma gothique, un hommage d'ailleurs à la Hammer. À ce titre, le monde fantastique d'Oz est esthétiquement beaucoup plus convaincant que l'Alice au Pays des Merveilles de Burton. Je ne sais pas si vous l'aviez vu.
C'était décevant.
C'était très décevant, notamment visuellement, c'était vraiment raté, alors que là je trouve que c'est vraiment réussi. D'ailleurs, la manière de Rémi dont Rémi rend hommage au cinéma fantastique en Technicolor des années 30 à 50 en utilisant les artifices numériques contemporains, tout ça possède quand même une certaine magie et fraîcheur, ce qui rend plus que digeste ce spectacle familial prévisible mais au fond divertissant et assez honnête. L'esprit iconoclaste de Sam Raimi n'est peut-être qu'un lointain souvenir pour ceux qui vénèrent Evil Dead ou des films comme Mort ou Vif ou je ne sais pas si vous vous rappelez de l'excellent polar Un plan simple, si. Mais ça reste, voilà, ça reste regardable. Et James Franco est épatant dans un rôle qui est taillé sur mesure, je trouve, pour Johnny Depp. Ah. Mais comme il est plus jeune, décidément, il le remplace.
Ce James Franco.
Oui, alors, après Spring Breakers, ouais. Il est vraiment partout.
Donc c'est au Gaumont Comédie où tu l'as vu en version originale sous-titrée.
Non,
en VF.
En VF, au Gaumont Comédie. Au VF.
Bouh. Bon.
Allez, on va très vite du côté de Sugarman avant de retrouver Antoine Leclerc du Festival Itinérance.
Cinérama sur Divergence FM.
Alors, Sugarman, c'est le documentaire qui a reçu l'Oscar cette année. L'histoire, très vite, eh bien, il s'agit de journalistes, en fait, musicologues qui décident d'enquêter sur la manière dont est mort Rodriguez. Rodriguez étant un bluesman, en fait, qui a eu une carrière totalement ratée tout autour du monde, sauf en Afrique du Sud, où apparemment il est devenu célèbre après sa mort. Alors bon, si vous vous intéressez un tout petit peu à la musique, vous devez savoir qu'en fait, il est en tournée un peu partout dans le monde, donc la révélation du film tombe un peu à plat, c'est-à-dire qu'en fait, il est vivant, c'est ce dont il se rend compte au bout d'une heure et demie. Bon, a priori, tout le monde le sait. Néanmoins, le documentaire est très bien mené. Alors, il y a un petit côté un peu américain, un peu CNN, qui peut un petit peu agacer. Disons que ça fait assez lisse. Et puis, la rencontre finale avec Rodriguez est légèrement décevante parce que finalement, il n'a pas grand-chose à dire. Mais voilà, c'est quand même deux heures de film, enfin de documentaire plutôt assez réussi, très bien mené. Le sujet est hyper original et puis ça a le mérite de faire découvrir ou redécouvrir sa musique, qu'on va d'ailleurs écouter pendant quelques secondes.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to
Sugar man.
Bref, donc Sugarman, c'est encore à voir en VO, au Diago, et je vous le conseille.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes.
Et il est temps maintenant, alors on est très pressé de recevoir Antoine Leclerc, bonjour.
Bonjour Vincent.
Alors on vous présente, vous êtes le délégué général ou directeur, délégué général du Festival Itinérance.
Oui.
Voilà. Alors, un festival de cinéma, c'est, vous avez fêté votre 31e anniversaire cette année, c'est ça ?
Oui, c'est ça, et ce dès vendredi 19h, avec plein d'avant-premières et plein d'hommages au rendez-vous jusqu'au 1er avril.
Alors, c'est un festival où il y a énormément de films, il y a 200 films, tout ça en 11 jours, donc ça va être dur, nous, en 5 minutes, de parler de tout. Mais on peut quand même parler, alors, notamment des nombreuses avant-premières que vous proposez. Ça, c'est une spécificité quand même de ce festival, je trouve.
Oui, il y a une vraie densité d'avant-premières. Je crois qu'il y a plus de 40 films inédits ou en avant-première avec des films très, très différents, comme le Lion d'or à Venise, le dernier film de Kinky Duke qui passera en troisième film de la soirée d'ouverture vendredi soir. Pieta, qui est vraiment formidable, mais aussi, par exemple, une comédie de Martin Le Gall, Pop Redemption, qui passera dimanche soir, qui fait le lien d'ailleurs avec notre thème de la musique cette année. Et puis des inédits aussi, j'insiste sur un film formidable vendredi à la soirée d'ouverture à 19h, que présentera son réalisateur hongrois Gorgui Palfi. C'est un film qui s'appelle Final Cut, mesdames et messieurs, et qu'il a fait à partir d'extraits de 400 autres films de l'histoire du cinéma. Et c'est formidable, c'est le plus beau casting de l'histoire du cinéma, et c'est vraiment une belle merveille pour ouvrir le festival.
Effectivement, et on peut en parler, hein, parce qu'il fait partie des hommages, donc ce réalisateur hongrois qui a fait l'étonnant Taxidermia et l'autre étonnant film Hic. Mais il y aura aussi, parmi les hommages, Walter Salles.
c'est un bel événement pour nous d'accueillir Walter Salles, ouais. qui est un réalisateur avec qui on est en contact depuis longtemps, dont on est familier de ses films, qui s'inscrit parfaitement dans l'itinérance. Il aime les road movies et il fera des notes pendant 3 jours, dès dimanche après-midi, pour présenter son dernier film Sur la route, et puis ensuite revenir sur sa filmographie depuis près de 20 ans. Toute la journée de lundi, il donnera une masterclass à près de centaines de lycéens et d'étudiants. Ça va être un grand moment du festival. C'est une grande figure du cinéma mondial, et ça va être un des grands rendez-vous de cette édition, effectivement.
Il y a aussi une carte blanche à Émile Breton, hein, parmi les hommages, et puis un focus sur le cinéma norvégien, donc là aussi un petit point de vue singulier, hein, sur ce cinéma-là.
C'est ça, oui. L'idée de montrer qu'il y a une variété de films qu'on connaît peu, beaucoup d'inédits là aussi. Et on a même trouvé un film de zombies norvégien qui sera au programme d'une nuit zombie pour fêter Pâques en fin de festival. Voilà. Ça s'appelle Dead Snow, et voilà, vous verrez des zombies et des nazis. Voilà. Encore une fois, le programme va être très éclectique.
Voilà, la nuit zombie, donc avec 4 films, ce sera le 30 mars de 22h à l'aube.
À l'aube, c'est ça. Ce sera précédé ce samedi d'une nuit des avant-premières. Oui. Et là aussi, ce sera l'occasion de découvrir beaucoup de films avant leur arrivée sur les écrans.
Et pareil, hein, 22h à l'aube. Il y a aussi les séances jeunes publics, il y a la Méditerranée dans un fauteuil, une sélection de films du Maghreb et du Moyen-Orient. Il y a la compétition de court-métrage aussi. Enfin voilà, énormément de choses.
Oui, et puis...
Le grand thème, la musique.
En avant, la musique. On parle beaucoup de musique de film en ce moment. Et d'ailleurs, Sugarman est un très bon exemple. J'encourage effectivement les gens à aller le voir au Diago. Il y a plein de films qui vont explorer les liens entre la musique et le cinéma, avec tous les genres de cinéma et tous les genres de musique. Et en point d'orgue, il y aura un très beau concert de l'Orchestre Symphonique Divertimento sous la direction de sa jeune et brillante chef, Zaya Ziwani, autour de musique de film signée John Williams, Cosma, Mancini et plein d'autres. Ça sera un rendez-vous qui sera en fin de festival, juste avant la soirée de clôture. Ça sera le 31 mars.
Voilà, donc une cinquantaine de films, voire plus. Hein, on peut avoir tout ce programme sur Internet, itinérance.org.
C'est ça, itinérance.org. Et puis, rendez-vous à un maximum de vos auditeurs à partir de vendredi 19h à Alès, qui n'est pas si loin de Montpellier, pour un marathon de films jusqu'au 1er avril.
Eh bien, merci beaucoup, Antoine Leclerc, en tout cas, pour ce passage éclair sur l'antenne.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Il y avait plein d'avant-premières à annoncer, mais ce sera sur le site internet et dans la rubrique Cinérama.
Et tout de suite après, 24 notes secondes sera consacrée aux musiques d'adaptation.
Et on remercie Bruno à la technique. À la semaine prochaine.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.